écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, ici célèbre Larsen, pour le Canu Info de ce lundi 4 novembre 2013 avec Jean-Pierre et Michel dans les studios et Robert en duplex. Pour aborder tout d'abord la rubrique internationale, on peut ouvrir ce journal sur l'Égypte que John Kerry vient de quitté puisqu'il était hier et il est aujourd'hui en Arabie Saoudite. Il a une grande tournée à faire pour 9 jours, y compris la Syrie, la Palestine. Mais l'Égypte aussi, où s'ouvrait aujourd'hui le procès de Morsi, l'ancien président, plus destitué que moins, qui est emprisonné sans savoir où, dit-il. Alors, ce procès a connu sa première journée. Ceci dit, il a été ajourné au 8 janvier suite à un certain nombre d'incidents de procédure. Morsi lui-même n'étant pas à la traîne, puisque chaque fois qu'il prend la parole, il déclare « Je suis le président et cette cour est illégitime à me juger ». Bref, il risque quand même la peine de mort ou perpète dans un contexte évidemment de tension qui se répercute dans la rue entre les pro-Morsi et les anti-Morsi qui manifestent aussi. Michel ?
Oui, donc le procès Morsi s'ouvre, mais l'Égypte reste dans le chaos le plus total et notamment dans la crise sociale profonde tenue par les aides américaines et saoudiennes. John Kerry, qui a séjourné ce week-end donc, en Égypte, a nettement fait savoir que les États-Unis, pour l'instant, suspendaient leur aide et étaient prêts de nouveau à accorder l'aide à une Égypte, mais une Égypte post-électorale, à savoir un gouvernement qui serait élu. Pour l'instant, on en est juste un gouvernement de transition qui s'oriente pas vraiment vers des méthodes démocratiques, puisqu'on est plutôt sur un retour en arrière, sous l'ère Moubarak, on verrouille tout. On nous met en avant donc le général Al-Sisi, donc pour l'instant il n'est pas question qu'il se présente aux élections présidentielles, mais ses proches, eux, font campagne activement donc pour son élection, donc c'est un jeu de dupes. Hein. Il semblerait clair que Al-Sisi veut faire le vide autour de lui et se présenter, mais c'est pas pour autant que c'est un gage donc d'une transition démocratique. On est loin donc de la révolution donc du 25 janvier 2011, du printemps arabe égyptien. Ceci dit donc. John Kerry, donc, c'est aussi une nouveauté. Pour l'instant, les Américains ont été assez balbutiants concernant leur diplomatie vis-à-vis de l'Égypte. Ils ne savaient pas trop sur quel pied danser. Donc, content d'un côté que Morsi soit démis de ses fonctions, mais de l'autre côté, voyant bien que le régime militaire en place, qui a la solde finalement de la plutocratie, hein, des potentats locaux faisaient fi de quelques valeurs démocratiques, donc se sont dans un premier temps abstenus, puis ont suspendu leur aide. Maintenant, il semblerait acquis que cette aide devrait se poursuivre si effectivement le processus démocratique, à savoir des élections qui permettraient aussi aux frères musulmans de participer, c'est pas rien, puisque revenons sur les déclarations d'Al-Sisi il y a quelques mois, il voulait tout bonnement supprimer donc tout parti qui émanerait donc des frères musulmans. Donc là, on est en forme d'un retour un peu en arrière, d'une mise au point des États-Unis vis-à-vis des militaires. Maintenant, on va voir dans le temps comment les choses vont se développer. Alors, il est clair, tu l'évoquais, hein, Morsi, donc pour lui, c'est le président élu démocratiquement. Donc, il ne reconnaît pas cette cour. Il est dans cette position. C'est son jeu. Et n'oublions pas qu'il est inculpé du meurtre, donc, devant son palais présidentiel de 7 manifestants. Juste à rappeler que depuis sa destitution, on parle de 1200 à 2000 morts donc des militaires hein, sur les partisans de pro-Morsi. Donc là, il semblerait que tout début d'enquête concernant ses morts soit enterré, quoi. Donc il est clair que la position jusqu'à présent adoptée par les militaires qui ont le soutien, faut le dire, des États-Unis, hein, quand même, et surtout de l'Arabie Saoudite, hein, sur lequel ils se tournent de plus en plus pour aller chercher des fonds. Il est clair que cette position, sur le long terme, sera intenable. Alors pour l'instant, on est pour tous ceux qui redoutaient donc la mainmise des frères musulmans sur une forme de jubilation. Donc les frères musulmans sont mis au placard. Mais le problème premier, hein, de l'Égypte, c'est problème social. Hein, c'est 84 millions d'habitants. Et comment maintenir donc un semblant de croissance économique qui est vital pour ce pays si on ne veut pas qu'il implose.
Voilà. Robert, tu voulais revenir sur ce sujet ou en aborder un autre ?
Non, pas particulièrement sur ce sujet. Non, peut-être, puisqu'on était un peu sur la stratégie américaine dans la région, on peut revenir sur cette manière brutale dont les drones états-uniens décident des négociations et de leur forme en ce qui concerne le Pakistan et l'Afghanistan, en l'occurrence le Pakistan, puisque l'un des responsables talibans, qui était l'un des négociateurs principaux du gouvernement pakistanais, a été éliminé par drone, ce qui effectivement d'une part non seulement réduit à zéro les efforts faits par le Pakistan, mais en plus met ce gouvernement pakistan en très mauvaise posture auprès du peuple et de l'ensemble des populations de la région.
Oui, c'est Hakimullah Massoud, hein, le dirigeant donc assassiné. Alors, ils sont efficaces militairement avec leurs drones, mais comme tu le dis, politiquement et diplomatiquement, ça fout une pagaille comme ça, sans que ça les implique beaucoup, puisqu'il n'y a même pas un militaire sur place pour faire le coup, qui a des répercussions considérables, quoi, y compris à l'intérieur des États concernés.
Alors, tu évoquais effectivement l'efficacité militaire. Est-ce qu'on peut parler d'efficacité militaire ? Là, on est en dehors du militaire. On est dans l'exécution pure et simple. On est dans
d'un ennemi, quand même, pour alors, eux. Ce qu'ils considèrent comme tel.
Ce qu'on considère comme ennemi. Mais ennemi, tout le monde peut être ennemi. Est-ce que les dommages collatéraux, si on en croit Amnesty International, depuis que les Américains utilisent les drones sur le nord Pakistan, on parle entre 400 à 900 morts, donc civils. Est-ce que ce sont des ennemis ? Qui est responsable ? La personne qui donne l'ordre de tirer ? Celle qui tire depuis Fort Knox dans les environs de Las Vegas, qui est responsable de la mort de ces personnes qui, de toute évidence, sont ennemis? Qu'est-ce que ça veut dire, l'ennemi? L'ennemi, ça suppose la réciprocité, c'est-à-dire si je suis en capacité de te tuer parce que j'ai une arme, c'est parce que aussi toi tu aides de me tuer. Là, il n'y a aucune espèce de réciprocité. Donc on est plus dans un contexte de terrain d'opération militaire classique tel qu'on l'entend. On est dans l'exécution pure et simple, on est dans la virtualisation
du terrorisme. Alors,
c'est du terrorisme d'État, on peut le dire clairement, c'est du terrorisme d'État. Et après, il ne faut surtout pas s'étonner qu'on ait droit à... On n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas fait beaucoup de pubs à ce sujet, mais la dizaine d'alpinistes occidentaux qui ont été abattus au printemps dernier dans les contreforts de l'Himalaya au Pakistan n'avaient peut-être rien à voir avec les opérations menées par les Américains, mais de toute évidence c'était d'une représaille à là où les talibans ne pouvaient pas agir contre ces drones. Et donc il faut s'attendre à ce type d'opération démultipliée, et il ne faut pas croire, effectivement, l'efficacité elle est uniquement d'ordre technologique, la capacité de contrôler le ciel et d'éliminer comme on l'entend, mais d'un point de vue politique, après tout, la guerre, c'est la politique par d'autres moyens. Est-ce qu'on arrive à ces buts politiques ? Il semblerait que non. Massoud a été liquidé. aussitôt on va mener donc on va nommer un remplaçant, et c'est pas pour autant que le mouvement lui taliban va disparaître. C'est totalement illusoire. Donc c'est, on est dans le non-droit le plus total, on est dans du tourisme d'État, et la chose la plus extravagante, c'est qu'on n'arrive même pas à s'en offusquer.
Alors c'est dirigé vers l'opinion américaine, ça, c'est pour redonner une image d'efficacité des militaires américains auprès de l'opinion publique.
Tout à fait, et je pense que c'est aussi le fruit d'un lobbying militaire intense, hein, celui, effectivement, on voit bien, déjà, en termes de renseignements, les Américains ont privilégié les écoutes, la machine, au détriment de l'information sur le terrain du fait d'agents de renseignement. Il en est de même maintenant, effectivement, sur leur mission donc d'exécution militaire. On privilégie plus le drone que l'opération commando ou l'opération sur le terrain.
Voilà. Autre sujet, Robert ?
On peut remonter sur le Maghreb et les printemps arabes avortés, et notamment celui de Tunisie, où si des pans nouveaux de liberté ont pu être acquis, en fait, rien n'est gagné en matière d'installation d'une démocratie, et surtout d'une démocratie qui est un volet social. Pas de gouvernement, de remplacement à celui en place, et qui est celui des Nahda, c'est-à-dire d'une composante importante islamiste. Et cet inconnu, cet imbroglio politicien, finalement, fait que de plus en plus la Tunisie s'enfonce dans l'austérité, dans une misère relative, et une misère qu'on constate naturellement tous les jours, avec ces milliers, ces centaines pour le moins, et sans doute des milliers de Tunisiens qui tentent par tous les moyens, et souvent des moyens qui leur coûtent la vie, de s'éloigner de ce pays, de ce nouveau pays de misère.
Oui, donc un état d'urgence qui est en place depuis 3 ans, hein, janvier 2011, et qui vient d'être prorogé jusqu'en juin 2014. Quoi. On peut peut-être dire aussi quelques mots, profiter de la présence de Michel. On parlait des élections du Kosovo, donc la semaine dernière, des élections dans un contexte particulièrement difficile, puisque il semblerait que dans le nord du Kosovo, il est question d'annuler les élections du fait de la trop faible participation, c'est un boycott autrement dit. Et puis dans le sud, il y a aussi des problèmes, sans compter que le premier ministre turc la semaine dernière a mis un peu d'huile sur le feu sur la question, en déclarant « la Turquie c'est le Kosovo c'est la Turquie », ce qui ne saurait plaire à tout le monde. Quoi.
Surtout aux Serbes du Kosovo. Eux qui considèrent donc,
et même aux Européens.
Aux Européens aussi. C'est peut-être l'entrisme de la part des Turcs pour entrer au sein de l'Union. Non, concernant ces élections sont la volonté de l'Union européenne. Hein, c'était au travers de ces élections, l'Union européenne voulait tester les bonnes volontés de Pristina et de Belgrade. Alors, chacun essaie de jouer le jeu, parce que le Kosovo en voie d'acquérir pleinement son indépendance, quand je dis en voie d'acquérir, c'est un État qui s'est autoproclamé indépendant, qui était sous le patronage des États-Unis d'Amérique, c'est pas rien. Et dès le début, il a eu une trentaine de pays qui l'ont connu. Au bout de quelques années, maintenant, on en est pratiquement à 100. Donc, il lui faut encore quelques douzaines pour qu'il soit reconnu de plein pied au sein des instances internationales, à savoir surtout au sein des Nations Unies. Donc il est en voie d'acquérir petit à petit, comme ça, de grignoter par lobbying interposé, hein, surtout le fruit des États-Unis, donc son indépendance. Mais dans le même temps, le Kosovo, donc, comme tout autre pays de l'Union européenne, veut adhérer à l'Union européenne, comme la Serbie. Et tout ça, c'est une forme de jeu de dupes. Hein. Belgrade se sentait obligé d'organiser ses élections. Dans le même temps, la question était si on permet aux Serbes de voter dans les instances kosovars, c'est de fait, on reconnaît le Kosovo, donc d'où la position de la population serbe dans sa majorité au Kosovo, qui était de ne pas voter, de boycotter ces instances finalement organisées par Pristina. Belgrade favorisait donc dans les enclaves serbes du centre et du sud du Kosovo. Il y a eu des incidents, oui, mais le vote a pu avoir lieu. Mais quant aux communes du nord de Kosovska Mitrovica, donc ce qui borde la frontière avec la Serbie jusqu'à la frontière Ibar, où la population majoritairement est serbe, c'est le seul endroit au Kosovo où la population vraiment rurale et citadine est majoritairement serbe, là, le mot d'ordre était boycott. Boycott, et non seulement boycott, mais pression physique sur toute personne qui se rendait aux urnes. D'où les incidents à répétition et la volonté effectivement d'annuler et de refaire voter la population. Mais voilà, c'est-à-dire pro forma, il fallait que ces élections aient lieu. De fait, la population du Nord massivement ne veut pas entendre parler. Elle qui finalement vit tournée totalement vers Belgrade, donc tourne le dos totalement aux instances de Pristina, elle ne veut pas entendre parler effectivement que le ce qu'elle considère comme un pseudo-État, donc lui dicte donc son rythme démocratique.
Les Kosovars non serbes, ils n'ont pas l'aspiration de rejoindre l'Albanie, de se fonder dans l'Albanie, alors, plutôt que de faire un État indépendant.
Alors, la première phase déjà, c'est acquérir de plein pied un État indépendant. Après, on parle de fédération, de confédération. Il est clair que déjà en termes d'intégration, on est déjà vers cette voie-là, puisque le principe pâle source d'approvisionnement pour les marchandises pour Pristina, c'est le port albanais de Durrës, et on est en train de finir une autoroute qui a été cofinancée par une entreprise turco-américaine entre Pristina jusqu'à la mer Adriatique, jusqu'à Durrës, en passant par Tirana. C'est pas une grand chose, hein. C'est en même temps c'est énorme. C'est une autoroute, hein. Faut comprendre un peu le relief géographique un peu du pays et la non rentabilité un peu de cette opération là. C'est-à-dire il y a pas de trafic, mais il est clair que c'était à tout prix désenclaver Pristina, donc les Albanais du Kosovo, pour plus qu'ils soient dépendants donc de leurs voisins slaves, qu'ils soient macédoniens ou serbes. Le but était là, même si effectivement l'opération coûte cher. Donc il est clair que l'intégration déjà par les infrastructures se fait dans cette voie-là. Mais pour l'instant, il est pas. Il y a certains mouvements qui réclament ouvertement donc l'union à l'Albanie et tout de suite. Mais pour l'instant, en tout cas, de la part du Premier ministre kosovar Hashim Thaçi, c'est pas à l'ordre du jour.
Alors, autre sujet dont il faut bien parler, il est franco-international, c'est le Mali avec donc cet assassinat de deux journalistes français à Kidal, dans le nord du Mali. Ghislaine Dupont, 51 ans, Claude Verlon, 58 ans, donc pas des jeunes tout fous engagés dans des affaires à la va-vite. Et bon, cela fait évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit sur les médias français. On comprend, l'émotion des journalistes est à son comble. C'est un événement militairement et diplomatiquement qui n'a pas une importance considérable, mais ça prouve bien que la situation n'est pas maîtrisée, que les quelques 200 militaires qu'on avait laissés dans le coin et pas partout, mais seulement concentrés dans l'aéroport, ne contrôlent pas l'ensemble de la ville. Et puis, bien sûr, on peut se poser des questions. Ont-ils été, malgré leur expérience un peu téméraire, en se rendant à cette rencontre avec un dirigeant du MLNA, qui les a tués, qui les a capturés? Est-ce sont des proches du MLNA dissidents, puisque ce mouvement est loin d'être unifié et la France n'a rien fait pour l'unifier, en scindant les bons des mauvais, les non-islamistes des islamistes, chez les Touaregs, donc. Sont-ce des gens qui ont un compte à régler par rapport à la libération toute récente des otages, où ils n'auraient pas eu l'écho qu'ils attendaient? Pour l'heure, on ne sait pas, on est toujours un peu dans l'émotionnel de ce drame journalistique pour les journalistes français. Mais peut-être vous avez des choses à dire aussi, Robert.
Je crois que on constate effectivement, et visiblement, il y a une relative impuissance à pouvoir imposer un nouvel ordre franc-africain, et c'est la leçon qu'on peut tirer de ce qui restera sans doute dans l'histoire comme une bavure et non pas un acte de guerre contre la France, mais néanmoins ça va quand même peser lourd.
Ouais, alors politiquement ça va avoir des conséquences puisque les Français au 31 décembre devaient passer de 3000 à 2000. On se demande maintenant si on va pas plutôt augmenter le contingent. Donc on attendait que les élections de la fin de l'année aient lieu pour désengager encore davantage. Et là, ça semblerait plutôt peut-être pousser à remettre davantage de militaires sur le terrain.
Oui, alors... pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'éléments concernant la mort donc, des journalistes. Vu le nombre de journalistes qui meurent donc, sur les terrains d'opération...
43 en 2013.
Hein, 43 ouais. En 2013. Je pense qu'il y en a eu 80 en 2012 sur l'année. Il faut faire le constat aussi que depuis... pas chercher la guerre du Vietnam, mais les Occidentaux, les démocraties occidentales ne voulaient plus de journalistes sur les terrains d'opération ou alors embarqués, embedded, comme ils disent. Et ceci a aussi eu pour effet ça et le fait d'avoir mené des politiques où on a affaibli durablement des États à une forme de chaos et de non-reconnaissance du statut journaliste tel qu'il est, à savoir, pour beaucoup, le journaliste est quelqu'un de suspect. Est-ce qu'il travaille pour la DGSE? Est-ce qu'il travaille pour la CIA? En tout cas, les forces islamistes tentent à le considérer aussi comme un ennemi. Donc, on y a aussi participé, nous, démocratie occidentale, à ça, puisque, de fait, depuis maintenant une vingtaine d'années, bien souvent, on débarque avec les militaires et on est hautement suspect. Ça c'est le premier point. Ceci explique aussi la difficulté pour les journalistes de travailler. Le deuxième aspect, peut-être notre ministre des Affaires étrangères en sait un peu plus que nous. Lui qui dit effectivement qu'aucun argent public n'a été versé pour la libération de nos otages la semaine dernière. Peut-être faut-il chercher là aussi l'explication de l'exécution de nos journalistes. Peut-être que tout le monde n'a pas été rétribué parmi les ravisseurs, et que ceci, effectivement, nous ont rappelé au travers de ces assassinats, donc cette triste réalité. Enfin bref, je pense, moi, que et notre président de la République et notre ministre des Affaires étrangères en savent un peu plus que nous sur ce dossier. Quant au contexte sur le terrain, c'est celui, effectivement, de Kidal, une ville qui est loin de Bamako, dans tous les sens du terme, une ville qui, si on organiser un référendum, se prononcerait massivement pour l'indépendance de l'Azawad, donc de cette partie nord du Mali, et alors que le Bamako ne veut pas entendre parler. Hein, juste rappeler que Boubacar Keïta, donc élu, il a été élu sur la base effectivement de la souveraineté du pays, donc de recouvrer les territoires qui ont été pris donc par les Touaregs et par les islamistes. Donc on voit la difficulté là aussi de l'armée française sur place. C'est celui d'organiser des élections, de faire en sorte que les élections aient lieu et que ces élections donc puissent donc avoir une répercussion donc concrète sur l'avenir du pays. Or on constate que au sein même donc des Touaregs, au sein donc du mouvement national pour la libération de l'Azawad, il y a des césures très 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 nettes hein, entre partisans de l'indépendance coûte que coûte par les armes et de ceux qui sont prêts à y renoncer quitte à obtenir une autonomie substantielle et dans ce jeu donc la France devra effectivement essayer de faire le tri entre les candidats donc respectables qui accepteront le jeu démocratique et ceux qu'elle traitera comme des terroristes.
Voilà, pour ce sujet, eh bien, on arrive bientôt à la fin de la rubrique internationale. Est-ce que, Robert, tu as encore un sujet ? On n'aura pas tout traité, je sais, mais...
Oui, je voulais simplement signaler cette lettre de l'ancien Premier ministre japonais Naoto Kan, publiée dans le Huffington Post le 28 octobre dernier, donc il y a quelques jours, où il conclut parlant de la situation catastrophique liée au nucléaire au Japon. Il conclut en disant « Nous devons nous tourner résolument vers le zéro nucléaire ». C'est un acte de foi courageux. Il fait son autocritique. Il dit qu'il était au pouvoir à ce moment-là et que le Japon est passé véritablement à peu de choses près de la catastrophe et du chaos, puisque si effectivement la fusion des combustibles nucléaires s'était contaminée de piscine en piscine, eh bien c'est 50 millions de personnes qu'il fallait déplacer, et donc c'est-à-dire y compris tout Tokyo et sa région. Et il a dit aussi ceci: avant l'accident de Fukushima, persuadé qu'aucun accident nucléaire ne pouvait arriver tant que les mesures de sécurité étaient correctement observées, j'avais favorisé l'énergie nucléaire. Et donc aujourd'hui, il dit, il faut aller maintenant résolument vers le zéro nucléaire. Il faudrait afficher ça partout, afficher cette déclaration.
Alors pour terminer, deux brèves, les Israéliens qui relancent 1859 logements de colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Et puis cette nouvelle européenne qui nous confirme que dans la zone euro, il y a bien 12% de chômeurs, soit 19 millions de personnes sans emploi actuellement. Allez, on écoute une autre chanson. La semaine dernière, j'en ai proposé une toute nouvelle de Jean-Michel Piton. Ce sera ce soir FGFN.
Pour la pimpolaise qu'il braille entre amis, fustige les joints made in Katmandou. Et dans le houblon, les vapeurs d'Annie, il renie le jazz qui rend un peu fou. Ils ont le clairon, ça c'est de la trompette, et puis le tambour qui vaut bien le tango. Quand il est major et qu'il marche en tête, il confie au ciel le joli drapeau. Bras dessus, dessous, l'apéro normal. Ils ont le front gras, le foie national. Parlant du pays, voilà qu'ils s'indignent. On n'est plus chez nous, parmi les bronzés. Créons d'une patrie, à quoi sert l'insigne que sur nos poitrines on a épinglé. Jeanne d'ARC, grâce à tes prières, chaque 1er mai, sous ton gros bourrin, pour le défilé qui suit ta bannière, tu déroules ton tapis de crottin. Aux idées sacrées, l'engrais idéal, ils ont le front gras, le foie national. Ils veulent s'éclairer aux années-lumière, mais ils pensent encore avec une bougie. Le bout de leur nez leur sert de frontière, au-delà duquel il n'est pas de vie. Quand ils clouent les chouettes aux portes des grands mange les ailes en croix, dernier jugement. Ils refont l'histoire comme ça les arrange, c'est pour justifier leur massacrement. Tous en garde à vous au confessionnal, ils ont le front gras, le foie national. Comme la terre est courte et la vie est ronde, ils sont de partout et d'éternité. On les rencontre à l'autre bout du monde, ou bien aux ingles du bistrot d'à côté. Au dos des moutons pelote la laine, les loups à l'affût s'abreuvent au sillon. Dans l'indifférence défile la haine qui réarme encore les vieux bataillons. Pour la solution qu'ils voudraient finale, ils ont le front gras, le foie national. Pour la solution qu'ils voudraient finale, ils ont le foie gras.
Jean-Michel Piton, sa composition FGFN, c'est un extrait de son dernier CD tout récent, Le cœur se sert de tout. Vous écoutez Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 4 novembre 2013. Nous abordons la rubrique nationale avec Jean-Pierre et Robert. Et nous allons peut-être ouvrir sur ces manifestations qui sont bretonnes, qui sont tout sauf transparentes, puisque à l'extrême des déclarations dont il a le secret polémiste, Mélenchon a dit que les esclaves manifestaient pour les droits de leur patron, de leur maître. Est-ce que c'est ça? Peut-être pas tout à fait, mais pas loin, et il y a de ça à certains endroits, puisque face à la manif de Quimper, par exemple, d'un soi-disant collectif pour l'emploi, il y avait aussi à Carex une autre manifestation qui a réuni moins de monde, 3000 personnes autour des partis de gauche, Front de gauche, CGT et autres. À Quimper, néanmoins, c'était une représentation extrêmement hétéroclite, puisqu'on trouvait l'ENPA, l'UMP, l'EFN, FO, des régionalistes. Alors, chacun pédalant pour sa propre équipe, et certains sans doute envoyés là par leur patron. C'est classique, surtout avec la FNSEA, combien de fois ils nous ont fait le coup d'envoyer les petits travailleurs pour défendre les intérêts des gros. Et il y a certes des problèmes en Bretagne, mais par rapport à l'écotaxe par exemple, on a vu ce qui est le plus emblématique, un certain député UMP, Le Fur, qui avait voté la taxe et qui aujourd'hui la dénonçait équipée d'un bonnet rouge. Alors il faudrait quand même pas pousser le bouchon trop loin. On a l'impression que cette manif de Quimper, c'était un petit peu la manif pour tous qui s'était déplacée en Bretagne par moment. C'est-à-dire tout ce qui peut servir à faire opposition à la gauche, aussi peu agréable soit-elle au pouvoir, trouve là un moyen de surfer sur le mécontentement général. On pourra revenir plus particulièrement sur des entreprises en difficulté, les abattoirs gardes, le Tipeee Salco, mais Robert, à toi un petit peu. Tu as sans doute quelques commentaires aussi.
Oui, simplement, effectivement, cette confusion entre les gros bonnets rouges et les petits bonnets phrygiens. Enfin, il n'y en avait pas des phrygiens, mais on aurait pu imaginer que pour se distinguer, les salariés qui étaient à Quimper ne mettent pas le bonnet rouge, mais mettent le bonnet phrygien, qui est également rouge. C'est pour l'anecdote, mais en fait, la situation est, comme tu l'as expliqué, bien là, c'est confus au niveau de cette de ces rassemblements qui, à la fois, ont des côtés récurrents de la Bretagne historique, avec tout ce qu'est le véhicule en aspect d'acceptation et puis d'entrée dans une conception progressiste, et puis aussi comme bastion arrière de l'ancienne France, la France aristocratique, féodale, réactionnaire, et tout ça semble remonter à la surface. Et d'ailleurs, par exemple, la résurgence de tout le mouvement chouan à travers, ça n'est plus simplement des figurations, on va dire, culturelles et artistiques, ça empiète très largement maintenant sur le domaine social, politique et économique. Et tout ça, effectivement, ça laisse craindre beaucoup si, effectivement, le gouvernement s'entête à vouloir simplement saupoudrer sur l'austérité générale et laisser croire à des aspects très partiels, très très limités et très marginaux des réformettes qu'il produit. Et ce qui se passe en Bretagne va sans doute être peut-être le plus gros choc que le gouvernement qui continue sur le terrain de l'austérité tout en masquant son caractère, eh bien, va affronter.
Voilà, donc à suivre. Bon, pour le moment, en tout cas, il y a rediscussion. On n'applique pas cette fameuse écotaxe avec un scandale qui se précise de jour en jour, à savoir qu'elle a été mise en place et votée par l'UMP Fillon-Sarkozy avec un pont d'or à un privé pour organiser non pas la collecte et surtout la collecte des informations sur les passages, mais il est peu courant que l'État délègue au privé la récupération des impôts, et surtout à un taux pareil, puisque par rapport au prélèvement, ce serait de l'ordre de 25% que l'opérateur qui s'est chargé de mettre les portiques et les bornes dans les camions, les détecteurs, se taxe, lui, 25%. C'est à se demander ce que font d'ailleurs certains aujourd'hui qui cherchent à voir si de ce côté-là, il n'y a pas quelque chose à faire pour dénoncer le contrat et l'annuler, pour peu qu'il ait été passé dans des conditions irrégulières ou qu'il y a eu des pots de vin face à ces sommes exorbitantes qui ont été accordées. Alors qu'habituellement, le coût des prélèvements de l'État dans les impositions sont de l'ordre de 2 à 3%. Donc, un mauvais coup de l'UMP avec lequel les socialistes essaient de se dépêtrer sans pour autant les exempter de rien, puisqu'ils nous en ont fait un certain nombre. On a eu l'occasion d'en parler et on n'est peut-être pas au bout. Ceci dit, il y a des aspects sociaux dans tout ça, en particulier l'affaire des abattoirs GAD. On a vu la semaine dernière donc les salariés de cet abattoir dont la fermeture de décision à l'Empol Guinmio était prise, venir essayer de bloquer un autre abattoir de la même entreprise à Josselin, avec des affrontements entre salariés, ce qui n'est jamais très joli, comme si ceux de Josselin s'imaginaient que leur sort à terme va être très différent des premiers. Là aussi, sans doute poussé par leur patron à s'opposer aux revendications. Bref, le mouvement des abattoirs GAD, puisqu'ils ont quand même été longtemps en grève avec occupation d'usine, a conduit pour les salariés à obtenir une multiplication par deux de leurs primes, mais ils devront s'en aller, la boutique fermant.
Oui, quand on refait un petit peu l'histoire, effectivement, de la mise sur pied et du vote par la droite du système écotaxe, en fait, on dit, tiens, on est surpris aujourd'hui que la droite avait fait ça, mais elle l'avait fait sur un modèle qui existe déjà. Par exemple, en Allemagne, c'est le même modèle. Et pratiquement, le prélèvement que font les multinationales en contrôlant ce système d'écotaxe, eh bien, est exorbitant. Il est de l'ordre de 20-25%, ce qui pose d'ailleurs d'énormes problèmes non seulement au gouvernement central allemand, mais aussi aux différents gouvernements dans les Landes. Et ça existe aussi dans d'autres pays européens, ce système-là, et c'est l'entrée massive ce qu'on appelle la privatisation, effectivement, privatisation de la perception de l'impôt. Bon, les taxes, c'est une forme d'impôt. Et cette privatisation, effectivement, elle entrait tout à fait dans le jeu du système capitaliste pour contrôler l'ensemble des ressources des pays à travers les multinationales. Je voulais parler social sur les quelques conflits qu'on connaît bien, notamment le conflit Goodyear à Amiens-Nord, où le patron de Titan, américain Maurice Taylor, qui s'en prend régulièrement aux ouvriers français et notamment à leur représentation syndicale CGT, eh bien, il est allé encore de sa provocation en décidant qu'il voulait bien reprendre une partie de l'entreprise pour faire donc du pneu agraire, mais seulement après que les 1173 salariés aient été licenciés. Alors là-dessus, il en reprendra à peu près un petit tiers. Aux conditions qui seront les siennes, naturellement, donc sûrement pas aux conditions de la CGT. Voilà, et sinon, eh bien, dans quelques années, si ça marche pas, il emmène tout le monde en Pologne pour la fabrication, il les emmène, enfin, il fera des propositions pour ceux qui voudront suivre, d'aller travailler en Pologne sur l'entreprise Titan, chargée de fabriquer ses pneus pour notamment le secteur agricole. Par rapport à ça, ben, Montebourg, on ne sait pas ce qu'il devient, il est silencieux. Lui qui avait ferraillé avec Maurice Taylor, eh bien, aujourd'hui, Montebourg, il soigne sans doute ses perspectives ultérieures en matière de carrière politique. Et le Montebourg, le camarade Montebourg, est devenu le copain des PDG. C'est une modification de comportement assez sensationnelle et assez surprenante, enfin pas totalement. Autre entreprise qui pose problème, c'est la liquidation de Fagor. Fagor, c'est l'électroménager vedette Brandt de Dietrich. Et surtout, ce qui était sa particularité, c'est que Fagor est contrôlé par une coopérative espagnole, coopérative ouvrière, Mondragon, et que c'est cette dernière, donc c'est le holding Mondragon qui a décidé de tout arrêter. Fagor qui comporte sur l'ensemble de l'Espagne et de l'Europe à peu près 6000 salariés, dont 1900 presque en France, et donc actuellement, eh bien, les syndicats de ces entreprises, dans un comité central d'entreprise qui va se réunir prochainement, eh bien, appellent au secours. Et Bercy, donc le ministère des Finances, comme Montebourg, le ministre en charge de la réindustrialisation, eh bien, c'est silence total de ce point de vue-là.
Troisième c'est 1800 pointe, salariés, Fagor.
Pardon ?
C'est 1800 salariés concernés, Fagor. Hein,
1800 salariés, oui, 1870, oui, oui. Il y avait aussi ce dossier des urgences de l'Hôtel Dieu, parce qu'aujourd'hui, 4 novembre, c'était le jour ultime où, enfin, à partir de ce jour, d'aujourd'hui, donc, les pompiers ne sont plus autorisés à conduire des gens qui ont besoin d'être accueillis dans les urgences, aux urgences de l'Hôtel Dieu à Paris. Interdiction. Ils doivent les conduire là où ils trouveront de la place, dans les autres hôpitaux. C'est le scandale qui se poursuit. Alors naturellement, l'agence régionale de santé dit, mais de toute façon, les urgences continuent à l'Hôtel Dieu, c'est-à-dire que à pied, à vélo, en voiture, en bicyclette, avec des béquilles, vous serez toujours reçu aux urgences de l'Hôtel Dieu. On voit l'état effectivement sanitaire de la situation qui se dégrade, notamment sur Paris, avec cette affaire des urgences de l'Hôtel Dieu. Alors la ville de Paris, notamment sa mairie, dit non, on ne laissera pas faire ça, on va défendre les urgences à l'Hôtel Dieu. D'autant que ça risque d'être important, y compris dans le débat pour les prochaines élections municipales. Mais pour l'instant, eh bien, c'est la continuation de l'application de la circulaire qui vise peu à peu à dépouiller et à fermer les urgences de l'Hôtel Dieu à Paris.
Social, encore dire un mot de Tilly Sapco. Alors eux, c'était une usine d'abattage de poulets. On se dit, mais pourquoi donc, d'un seul coup, quand un seul 1000 emplois sont menacés et ils ne pourraient plus faire du poulet alors que ça se vendait bien avant? Eh bien, ce n'est pas tellement du côté des poulets qu'il faut regarder, c'est du côté des subventions européennes, puisque jusque-là, les subventions européennes compensaient les surcoûts de ces poulets par rapport aux poulets moins chers d'Amérique du Sud. Et puis ben, la Commission européenne a décidé d'arrêter les subventions. Du coup, l'activité n'est plus rentable sans ces aides. Et les directions donc décident de les fermer. Ça nous montre une fois de plus des effets indirects de la mondialisation et de cette compétition entre les plus bas salaires et les autres qui font que... les activités comme ça sont chaotiquement condamnées dans des pays. On va bientôt plus être bon qu'à recevoir des touristes chinois et sud-américains. France Télévisions est aussi un peu dans la tourmente. 360 emplois sont annoncés devoir être supprimés. Même s'il y a une bonne nouvelle, c'est que le président de la République ne nommera plus les patrons de France Télévisions. La dotation est en diminution, la publicité aussi, paraît-il. On a augmenté la taxe télé de 6 euros, c'est 131 euros pour regarder de la pub à longueur de journée. Mais ça ne suffit pas, puisque ça ne compense pas ces déficits. Donc, il faut, paraît-il, dégraisser le mammouth. Il y a un préavis de grève annoncé pour le 7 novembre. Voilà, on ne vous fera pas pleurer sur les footballeurs à plus d'un million qui seront taxés. Là, Hollande a su rester ferme. Il n'a pas dû avoir trop de mal. Tu avais d'autres infos, Robert?
La bataille pour... obtenir que le projet de contre-réforme sur la retraite, bien cette bataille se poursuit au Sénat. Alors c'est une bataille difficile à mener parce que c'est une bataille que veut surtout mener la gauche non socialiste, la gauche de gauche, mais qui voit ces arguments souvent appuyés ou plutôt appuyés ou controversés, mais qui conduisent à un résultat que la droite se retrouve à voter avec la gauche de gauche pour contrer certains des articles de cette loi qui sont des articles qui, comme on l'a expliqué plus d'une fois, visent simplement à entériner les anciennes propositions de cette droite au pouvoir. Et la confusion est totale. Et on essaye, la gauche avec beaucoup de difficultés, essaye de faire, la gauche du PS, essaye de faire avancer la discussion pour que le projet soit modifié, mais sans beaucoup d'illusions. C'est pas une bataille d'arrière-garde au niveau du contenu que mène la gauche de gauche, mais c'est une bataille pour tenter de retarder la mise en application de cette réforme qui en fait entérine déjà une contre-réforme, allongement de la durée des cotisations, fixation à 43 ans et demi, et puis tout est comme ça avec les conséquences que l'on sent bien venir pour l'ensemble des générations futures qui vont, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas à leur faveur que ça se fait, ça sera à leur détriment.
Quelques nouvelles sociales encore. Le gel des APL pour cette année, je pense l'année à venir, ça concerne 6 millions de personnes dont la moitié sont en situation de pauvreté. Par contre, le gaz a augmenté de 0,6% au 1er novembre et les tarifs sociaux qui étaient prévus, mis en place pour l'année prochaine, ils vont devoir attendre puisque, paraît-il, les décrets ne sont parus que tout récemment. Et du coup, Veolia n'est pas en mesure de mettre en place en si peu de temps ces tarifs sociaux. Donc, qui en fera les faits ? Eh bien, les abonnés qui auraient pu en bénéficier, quoi. Néanmoins, il y aurait soi-disant pas de coupure cette année en période hivernale, du 1er novembre donc au 31 mars, si les clients n'arrivent pas à payer leurs factures. Il faut quand même rappeler qu'en 2012, c'est 580 000 personnes qui en France ont été privées à un moment ou à un autre de gaz et d'électricité pour ces histoires de paiement de factures. Les enseignants appellent à la grève le 14 novembre, à l'appel de la CGT, FO Sud et la FAEN. Ils demandent le retrait du projet des 4 jours et demi et des complications d'organisation. Enfin, ils demandent à rediscuter de cette directive qui ne convient pas à beaucoup de monde. Voilà, d'autres infos. Les demandeurs d'asile, alors actuellement, il semble qu'il faut 17 mois, presque 2 ans pour avoir une réponse et qu'il y a des problèmes de manque d'hébergement. Et une fois de plus, on décide qu'il faudrait que ça tombe à 6 mois. Mais déjà, Chirac, il y a 10 ans, avait pris le même engagement et il n'a rien pu y faire. Et Hollande, lui, avant d'être élu, parlait de 6 mois de durée de procédure pour donner une réponse aux requérants. On va voir si l'administration actuelle arrive à faire mieux. Voilà, ben on arrive bientôt au terme de ce Canu Info. Je voulais saluer la disparition du résistant Théo Vialmassa, qui a été maire de Firminy jusqu'en 92, qui avait été un résistant déporté à Buchenwald et qui est donc décédé à un âge assez avancé, je crois que c'est 94 ans. Voilà, d'autres... je donne quelques infos culturelles, ou tu as encore une brève?
Oh, peut-être Robert, juste avant. Je ne sais pas si tu as assisté au défilé, c'est un défilé de culture, c'était le défilé des moutons. As-tu vu les moutons défiler dans Lyon?
Non.
Samedi après-midi?
Non, mais... Tu vas nous dire ce qu'il en était. Enfin, il faut dire qu'on a un copain, Alexandre, qui avec son émission, j'ai plus en tête l'horaire, avait prévu de faire quelque chose autour de l'événement. Les paysans dans la lutte des classes, s'appelle l'émission. Donc, j'en sais pas plus, les moutons. On peut peut-être écouter l'émission dont tu me parlais sur Zinzine, non? Ils ont aussi un site avec des blogs où on peut réécouter les émissions, tu sais pas peut-être? Alors, je vais vous donner quelques infos culturelles sur la fin de la semaine. Eh ben, l'ARFI, à partir du 5 novembre, propose sa quinzaine, les Éclats d'ARFI, avec un certain nombre de choses. Le mardi 5 novembre, c'est un événement label pour présenter leur dernière création à la librairie Musique à l'âme, qui est rue Pizet. Le jeudi 7 novembre, là, c'est un spectacle, La souplesse de la baleine, théâtre musical aux Asphalèdes. Et puis le 12 novembre, au Temple Lanterne, une création Arfolia Libra. Éclats d'ARFI, vous saurez tout en regardant sur Internet les programmes détaillés. Jeudi et vendredi, M. Zara, c'est une chorégraphie de Maryse Delante qui est donnée à Charlie Chaplin. À tout bout de champ, Janine Pélican et Moran seront vendredi en spectacle. Samedi 9, c'est Aske Hoog, s'appelle-t-il, toujours à tout bout de champ. Et puis, il y a les 6e rencontres internationales de Vénitieux les 8 et 9 novembre qui vont beaucoup tourner autour de la paix et de différents pays. Vendredi 8, 18h30, la paix face aux impérialismes. Samedi 9, le Chili le matin. Alba, coopération et mondialisation, 14h, Chine entre socialisme et capitalisme, 16h15, Chine, coopération et mondialisation, 18h45, contre les guerres impérialistes avec les peuples du Moyen-Orient, et puis 19h30, musique, exposition, chanson, repas, et 20h encore un spectacle. Donc ça s'appelle les 6e rencontres internationales de Vénissieux, avec donc beaucoup de débats. Salle Irène Joliot-Curie, pcfvénissieux.org pour en savoir plus. Nous arrivons au terme de ce Canu Info qui sera rediffusé demain matin à 8h. Je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de Radio Canu. Ne quittez pas l'antenne. Bonsoir.